Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Qui nous emplissent de doutes, et nous pouvons maintenant analyser le Yeshet 13 sur une base plus assurée. Quoique certainement cette analyse n'a pas convaincu tout le monde, je vous rappelle que nous pouvons désormais considérer comme presque assuré que le nom des Ravashi s'explique par la racine var, choisir. Que leur nom signifie donc l'action de faire un choix. Et ainsi, les Ravashi sont une parmi d'autres, parce que ce sont les divinités majoritaires du panthéon mazdéen. Elles portent un nom lisible et elles incarnent des abstractions métonymiques de l'être qui pense, qu'il soit Dieu ou homme. Plus précisément, nous pouvons aussi considérer que cet acte de choix, c'est le sentiment qui fait que l'on dit Fravarané, comme Hoffmann l'avait exprimé, mais très brièvement, en 1979. Nous avons vu aussi, nous avons établi aussi que cet acte de choix, que l'acte qui fait que l'on dit Fravarané, est un procès liturgique, et que ce procès liturgique est l'avant-dernière étape dans la construction de la personnalité sacrificielle des prêtres officiants. Il ne s'agit donc pas de faire un choix entre le bien et le mal, comme Schlereth ou Narten l'ont écrit, mais de faire le choix d'Ahura Mazda comme cible sacrificielle. Et ce choix est réversible, puisque Ahura Mazda, lui aussi, doit agréer le sacrifiant qui le prend pour cible. Enfin, contrairement aussi à ce que Narten a voulu montrer dans son article essentiel de 1985, nous devons ici donner raison à Bernfried Schlereth. Il y a bien dans l'acte de choix le fait de s'intégrer à une succession temporelle, comme il l'avait montré en 1981. Donc, dire Fravarané introduit les officiants du sacrifice qui se produit hic et nunc dans la continuité des sacrifiants, dans la continuité des sacrifiants depuis le premier homme et premier sacrificateur, celui qui porte le nom de vie mortelle, Gaio Martan, jusqu'au dernier, qui sera le dernier sacrifiant, celui qui brisera définitivement l'obstacle. Et cette fonction sacrée du sacrifice, dans laquelle le prêtre qui dit Fravarané s'introduit, lui donne la qualité du mot Saoshiant que nous avons commenté la fois dernière. Ainsi donc, il y a bien dans Fravashi quelque chose qui évoque le Pravara indien, c'est-à-dire la lignée continuelle des avatars, des hotars dans le domaine indien, depuis le premier hotar qui est le dieu Agni. Et bien sûr, la perspective est différente, il n'y a pas de dernier hotar dans la perspective védique. Il y a bien quelque chose aussi qui évoque l'archeya, comme la succession infinie des rishis qui rentrent le sacrifice. Alors, une nouvelle acquisition importante que nous devons à Narten, c'est que la notion, certes, comme on l'a affirmé pendant longtemps, n'est pas gathique. Le mot Fravashi n'apparaît pas dans les gathas. Mais la notion est bel et bien vieille avestique, puisque le mot apparaît dans le Yasna Haptankaiti. L'examen que nous avons fait de cette attestation la dernière fois avait pour objet, j'ai voulu le faire avec un peu de, en m'y attardant et en projetant devant vous le texte de référence dans la langue originelle, parce que c'est une source d'embarras, comme je vous l'ai expliqué. À moins de considérer que le passage est interpolé, ce que je ne crois pas. Il y a deux possibilités. Ou bien on s'en remet l'apparence extérieure du mot, et le mot Fravashi, dans ce contexte, apparaît comme l'objet du sacrifice, au même titre qu'Ahura Mazda. Dès lors, s'il s'agit d'une cible sacrificielle assimilée plus ou moins à Mazda, il s'agit bien d'un groupe divin. dès le Yasna Haptankaiti. C'est un groupe divin dès le Yasna Haptankaiti. La deuxième solution, la deuxième possibilité dans l'interprétation du passage, c'est de s'en remettre à la mécanique, je dirais, des modèles syntaxiques qui exigeraient dans ce contexte l'instrumental. Dès lors, l'instrumental, ça ne correspond pas à l'apparence du mot, mais il est possible de l'expliquer. Il est possible d'expliquer que le mot fravashish, sous cette forme-là, est en réalité un instrumental. Dès lors, fravashi n'est plus l'objet du sacrifice, mais c'est le moyen du sacrifice, et on doit reconnaître dans le mot la composante métonymique de la personnalité humaine. Là, le choix qui nous est laissé. Maintenant, nous allons passer à l'examen du Yasht 13 et à la mythologie des fravashi. Le Yasht 13, je vais commencer mon exposé, la toute première leçon par cela, c'est un texte très long. Un texte très long de 157 strophes qui est composé de deux parties de longueur inégale, mais la première consiste certainement à rendre le sacrifice au groupe anonyme des Fravashi, des divinités Fravashi, et la seconde partie consiste à mentionner le nom de certaines d'entre elles. Donc il y a deux parties extrêmement différentes. Alors, pour l'instant, je crois que nous allons nous préoccuper de la première partie. Nous y rapporterons plus tard la deuxième pour voir ce qu'elle ajoute à la mythologie des Fravashi. Mais on peut sans aucun doute considérer que dans cette première partie, court jusqu'à la strophe 81, on peut distinguer quatre parties du point de vue thématique. La première partie est composée de chapitres longs. Ce sont trois chapitres pour 29 strophes. C'est beaucoup pour un texte avestique. Ce sont de longs chapitres. La deuxième partie est faite de chapitres extrêmement courts, une seule strophe souvent. Souvent une seule strophe, parfois deux, très rarement trois. Cette partie occupe les strophes 30 à 52. Chacun des chapitres qui intervient dans cette partie consiste à traiter thématiquement une idée particulière. Par exemple, la première partie, celle qui est faite de chapitres qui se suivent, séparés, aboutit au récit allusif, très bref malheureusement, d'un mythe, d'un petit mythe où les Fravashi semblent être intervenus au bénéfice de héros en train de combattre. Ces héros s'appellent les Kshtavi, ce qui veut dire, en traduisant par un prénom qui pourrait être encore d'usage aujourd'hui, les fils de Sixte, les fils du sixième, et qui affrontent un ennemi étranger, un ennemi non-iranien, et qui remporte la victoire grâce aux Fravashi. Le deuxième chapitre aboutit à une description de l'activité actuelle dans le présent des Fravashi dans le mécanisme de la distribution de l'eau. Le troisième chapitre n'est pas facile à résumer car il semble qu'il soit question de manière assez confuse de la manière dont les Fravashi font le choix entre deux adversaires mazdéens. Il arrive qu'il y ait des guerres intra-mazdéennes. Que vont faire les Fravashi si chaque adversaire leur rend le sacrifice? C'est ce thème qui est traité dans ce troisième chapitre. Enfin, le quatrième de cette seconde partie, nous le connaissons, je vous en ai parlé, c'est leur arrivée parmi les hommes lors de la fête du Hamas Patmaïdaya. Bien. Alors, la troisième partie est faite, elle aussi, est empoitillée, elle aussi, de très brefs chapitres qui se succèdent, mais qui s'articulent logiquement et qui constituent même, quoique détachés, quelque chose que nous connaissons bien, c'est-à-dire des catalogues. Il y en a deux. Il y a un catalogue cosmogonique, d'abord. Et puis, le catalogue des surveillances eschatologiques. Nous y passons, je vous fais le tableau. Alors, quatrième et dernière partie de ce secteur de l'hymne, elle est longue, très longue elle aussi, des strophes 64 à 81, et qui tendent à s'effilocher vers la fin. Mais il est intéressant de noter qu'avant que le texte ne peine un nouveau démarrage avec l'énumération des noms propres des Fravachis les plus célèbres, eh bien, nous trouvons ici aussi une troisième partie cosmogonique. Troisième partie cosmogonique. Alors, vous voyez, je pense que nous devons observer tout d'abord que jusqu'à l'énumération des noms propres, les 80 premières strophes de l'hymne, il y a un fil conducteur qui réapparaît de temps à autre dans le texte, dans toutes les parties du texte, c'est la cosmogonie. Le Yashte 13 est un texte cosmogonique, avant tout. Et nous allons entrer dans les détails pour voir ce qui le caractérise dans cette histoire. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas la coloration guerrière. Elle a été trop accusée, comme nous le pressentions dans les premières leçons. Mais le centre, le thème même du Yashte 13, c'est de traiter de la cosmogonie. Alors, la cosmogonie, le premier passage cosmogonique, le Yashte commence par lui, commence par le passage, par un récit, une narration cosmogonique. Les trois premiers chapitres, donc, jusqu'à la 29e strophe, raconte la même histoire dans un même formulaire, mais chaque chapitre la coule dans un genre rhétorique différent. Le premier chapitre est très long, 19 strophes, strophes 1 à 19. Il est très long parce qu'il est alourdi, hein. Il y a beaucoup d'interpolations dans ce chapitre, il y a beaucoup d'interpolations. C'est une description. Son genre est défini comme une description. Nous n'avons pas le mot original du genre rhétorique qui répond à la description. Je fais l'hypothèse, peut-être, mais ce n'est pas une chose essentielle pour nous, que ce genre rhétorique s'appelait dans la langue originale un fravaka, une description. Cette description est faite par Ahura Mazda à l'intention de Zarathoustra. Il va raconter à Zarathoustra quelle a été l'importance, le rôle, la fonction des Fravachis dans la cosmogonie. Deuxième chapitre, strophes 20 à 25. C'est une prescription, ce qu'on appelle une prescription. Là, nous avons à coup sûr le nom rhétorique. Une prescription dans la langue avestique elle-même, c'est un data. Un data consiste à donner des ordres ou des conseils à l'optatif présent. Donc, il y a une définition très précise du genre. Beaucoup de textes répondent à ce genre. Pas beaucoup de fravaka, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Mais les prescriptions sont extrêmement nombreuses dans l'Avesta. Bien entendu, c'est aussi des prescriptions données par, apportées à Zarathoustra par Ahura Mazda. Donc, ces deux genres-là, les deux premiers chapitres, ne correspondent pas au genre Yashte. Le genre Yashte, pour le donner en avestique, pour lui donner son nom avestique, le genre Yasna consiste à aligner en succession des formules en Yazamaïdé, c'est le verbe, n'est-ce pas ? Nous sacrifions, et l'objet de ce sacrifice est évidemment la divinité auquel le Yashte est consacré. Le troisième chapitre est un Yasna. Le Yasna commence, le Yashte proprement dit, du Yashte 13, commence donc avec la strophe 26. Là, nous allons voir se succéder des formules en Yazamaïdé. Donc, la même histoire cosmogonique se répartit et fondue. Nous avons une version distincte dans les trois genres que représentent respectivement les trois premiers chapitres. Bon, alors, pour la forme encore, il faut remarquer, il n'est pas indifférent de remarquer ceci, c'est que contrairement à des yashtes comme le yashte 10 au dieu Mitra, ou le yasna 57 qui est un yashte, c'est le yashte consacré au dieu Srausha, il n'y a pas de strophe récurrente. il n'y a pas de strophe récurrente qui forme en quelque sorte le noyau de départ que l'on élargit de manière sans cesse différente, n'est-ce pas, dans l'acte de rendre en yasna, c'est-à-dire de prononcer les formules sacrificielles en yasamaïdé. Pas de strophe récurrente, donc, au contraire, cela signifie que formellement le refrain est réduit à peu de choses. Hein, le yasna est nécessairement fondé sur un refrain. Dans le yasht des Fravashi, le refrain est réduit au minimum. Il apparaît scindé aussi, car l'introduction normale d'une formule en yasamaïdé dans beaucoup de yasht, cela consiste à expliquer que la raison pour laquelle on sacrifie, c'est l'intention d'obtenir de la divinité la richesse. Je vous le mets à l'instrumental, d'intérêt en quelque sorte, hein, dans l'intérêt de la richesse que la divinité donne, richesse à l'instrumental, et le fameux kwarna à l'instrumental lui aussi, c'est-à-dire la capacité de réaliser l'abondance ou si l'on veut la fécondité. Donc cette raison de sacrifier qui réapparaît dans beaucoup de yasht est dissociée de la prononciation, de l'énoncé de la formule en yasamaïdé. Et il va consister plutôt dans le premier, dans le tout premier chapitre, en la richesse et le kwarna deviennent les moyens par lesquels les Fravashi ont aidé Ahura Mazda dans l'œuvre cosmogonique. Alors, le refrain du yasht proprement dit, donc de la formule en yasamaïdé, est extrêmement bref et il se réduit à mentionner les Fravashi avec un génitif pluriel, bien entendu. Ce sont nécessairement les Fravashi de ceux qui sont des partisans de l'ordre cosmique, du Hurta, de Asha, les Ashavan. Et puis, trois épithètes, qui sont Vainknuhij, elles sont bonnes, attention, bonnes, ça veut dire bon, généreux, divin. Il faut grouper les trois significations à l'intérieur du mot. Ensuite, le mot suror, ça, c'est la référence à une force qui est celle du gonflement. Nous en avons la racine sou, gonfler. Nous en avons parlé la fois dernière, puisque c'est le mot, c'est la racine qui forme le terme sava, une puissance de gonflement. C'est une force eschatologique, hein, c'est une force eschatologique. Par le sava, on atteint le paradis. Et puis, c'est aussi la racine qui est à la base du participe futur, saushyant, le nom du sacrifiant parfaitement engagé dans l'œuvre sacrificielle, et depuis le premier homme jusqu'au dernier. Les saushyant, ceux qui vont gonfler. On peut interpréter ce gonflement de manière extrêmement distincte. Je sais que Chervé, par exemple, n'a pas du tout la même explication que moi pour ceci. Il croit qu'il s'agit d'introduire une force qui rend la vie à ce qui est mort. Hein. Mais l'avis que je défends toujours, c'est pas que plutôt c'est une allusion métaphorique au caractère irrésistible de la lumière du jour, puisque les Saushyant envahissent l'air sacrificiel comme l'aurore se propage dans le ciel, métaphoriquement, au matin, qui est le moment du début du sacrifice. Donc, ces Fravashi sont, je dirais, si je devais traduire le terme, je le traduirais par irrésistibles. Elles sont irrésistibles, elles manifestent une force irrésistible, ou elles la donnent, hein. Attention, parce qu'un adjectif qui se construit de cette manière, on ne sait pas s'il a une valeur subjective qui a pour soi-même la force « ça va », ou bien si elle a une valeur objective, c'est-à-dire qui donne cette force-là à ses fidèles. Le troisième et dernier, « spentor », que l'on traduit par « bienfaisant », elles sont bienfaisantes, et alors appelée Fravashi en tant qu'objet du Yasamaide. C'est une caractéristique un peu perturbante et je ne connais pas d'explication, on ne peut pas en la donner, on ne peut que constater, alors que elle est donc, le mot Fravashi dans la formule est évidemment objet du verbe sacrifier, donc devrait figurer à l'accusatif pluriel. Eh bien non, il semble que ce mot, sauf peut-être dans le Yasna Haptangaiti, ne soit jamais utilisé à l'accusatif. Toujours la forme Fravashayo est un nominatif. Formellement, c'est un nominatif. Nous devons l'accepter comme tel. Il n'y a pas d'explication. Alors, comment se présente le récit cosmogonique qui nous est rapporté dans ces trois premiers chapitres sous une forme rhétorique différente? Mais il n'y a pas que la forme. Il n'y a pas que la forme rhétorique qui est variable. Le même épisode cosmogonique est raconté, mais attribué dans chaque chapitre à des acteurs différents. L'action cosmogonique, elle, est exprimée par le verbe « vi ». Ce n'est pas étymologique, mais dans les conventions graphiques de la vestique, le i du préverbe « vi » est toujours long. Vidar. Dar signifie tenir. Indien, le verbe sanskrit pour ceux d'entre vous qui font du sanskrit est dar. Le sens exact, nous ne pouvons pas le traduire en français par un. Pour avoir le sens précis, nous devons utiliser une expression périphrastique. On ne peut pas. Nous dirons fixé, hein, nous dirons fixé pour les commodités de la traduction, mais cela signifie très exactement étendre et tenir. On étend et l'on soutient, et l'on fixe. Dans le premier récit, cet acte cosmogonique est attribué au dieu Ahura Mazda. C'est lui qui fait le récit et il dit « j'ai fait ça ». J'ai donc tenu étendu. Dans le deuxième chapitre, dans le Data, le discours est aussi tenu par Ahura Mazda, n'est-ce pas, par Ahura Mazda, mais dans une perspective différente, puisque il y a un renvoi de la récitation à Zarathoustra. Ce que Ahura Mazda dit à Zarathoustra, c'est voilà ce que tu dois dire toi quand tu souhaites obtenir l'assistance des Fravashi. Tu dois réciter ce texte-là. Et alors le texte évidemment est celui que Zarathoustra va devoir prendre à son compte. La perspective est différente, n'est-ce pas? Eh bien, là, l'acte de vie d'art, de tenir étendu, est attribué à Zarathoustra, au Fravashi elle-même, personnellement. Ce sont les Fravashi qui tiennent étendu. Dans le troisième chapitre, c'est un Yasamaide, c'est donc l'œuvre du poète. Hein, personne d'autre que le sacrifiant qui parle au présent, au nom d'un collectif, à la première personne du pluriel, ne prononce ce texte. Ce sont les poètes sacrifiants eux-mêmes qui s'expriment. Et eux attribuent l'action de vie d'art, non pas à Ahura Mazda, non pas au Fravashi, mais à Spentamaindyu. Nous allons y venir. Alors, je crois que ceci n'est pas peut-être une variation inexplicable. Je crois que nous pouvons donner une explication assez simple. La différence, je pense, tient à la différence de nature, à la différence de point de vue des trois textes. L'action est d'abord, bien sûr, Ahura Mazda raconte la cosmogonie à Zarathoustra, il s'exprime en son nom propre, il donne les actions qu'il a faites, et il explique en quoi les Fravashi l'ont aidé. Dans le second chapitre, le data, la prescription, il donne à Zarathoustra un texte qui, s'il le récite, lui permettra d'obtenir l'assistance des Fravashi. Alors, la perspective est différente. Je suis de plus en plus persuadé, parce que j'en trouve les traces dans les Gathas aussi, que des divergences de ce genre s'expliquent souvent par, je vais dire, la diplomatie sacrificielle. Il faut flatter les Fravashis cette fois-ci, il faut les flatter, hein, pour obtenir leur assistance dans toutes sortes de situations désagréables. Dès lors, on leur attribuera l'acte cosmogonique directement. Nous avons d'autres traces de cette conduite, n'est-ce pas ? Et dans le Rig Veda, c'est aussi très fréquent, n'est-ce pas ? Où les exploits sont toujours les mêmes, sont attribués à des dieux distincts selon le titulaire de l'hymne. C'est une sorte de diplomatie du sacrifice qui se joue ici. Alors, dès lors, le récit le plus élaboré, peut-être celui qui correspond le mieux à l'essence de la théologie mazdéenne, c'est celui du troisième chapitre, parce que là, il est celui du sacrifiant lui-même, n'est-ce pas, qui rapporte sa vision des choses et qui le fait de manière responsable, en quelque sorte. Ce discours lui appartient. Alors, maintenant, comment les choses se présentent-elles? Il y a une petite différence selon chacun des chapitres. Que va-t-on tenir étendu? Que va-t-on tenir étendu exactement? Eh bien, dans le premier chapitre, le récit se distribue en deux volets avec une articulation. Le premier élément qui sera tenu étendu, c'est le ciel. C'est la voûte céleste, plus exactement. La voûte céleste. Vous devinerez que la seconde chose, ce sera la terre. Et alors, de manière extrêmement, alors que l'on, les autres, que vous allez voir que les séries sont plus élaborées, on passe directement à un troisième élément. Il s'agit des embryons dans les matrices des femelles, car il ne s'agit pas que des embryons humains, bien sûr, hein. Ce sont les embryons dans les matrices des femelles. On peut s'étonner un peu, mais bon, nous ne pouvons pas faire la fine bouche. On peut se demander si le verbe « tenir étendu » convient bien à cela, n'est-ce pas ? Mais cela, je n'y puis rien. Alors vient l'articulation en deux strophes où Ahura Mazda, comme cela est traditionnel aussi, ça a dû aussi constituer un genre rhétorique particulier, nous n'avons pas le nom, souvent explique la nécessité d'un comportement rituel, ou l'importance d'une divinité, l'importance d'un acte liturgique, en faisant la supposition irréelle que cette divinité n'existe pas ou que cet acte liturgique n'ait pas eu lieu. C'est donc une supposition d'irréel du passé que l'on va faire. Il va dire, voilà, si les Fravashis n'avaient pas fait cela, eh bien, les choses ne seraient pas comme cela. Je vous lirai la traduction de ces choses maintenant, hein, pour vous dire où est le pivot, n'est-ce pas, le pivot entre les deux parties. Et puis, on passe au présent. Étant donné que ceci n'a pas eu lieu, les choses, aujourd'hui, maintenant, sont comme ceci, n'est-ce pas ? Eh bien, les eaux sont devenues inépuisables, le processus de reproduction des vivants fonctionne, et un homme de qualité peut naître. Donc, le pivot de supposition des réels du passé fait transition, en quelque sorte, entre le passé cosmogonique et le fonctionnement ordonné, agencé du monde d'aujourd'hui. Alors, pour satisfaire peut-être votre curiosité, voici ce que cela donne. C'est grâce donc à leur richesse, grâce à leur fécondité, aux Zarathoustra, que j'ai fixé le ciel là-haut. Le ciel qui est lumineux et transparent, qui auparavant couvait la terre comme un oiseau couve un œuf, et qui à présent se tient dans l'espace céleste, solidement fixé sur ses bords lointains et comparable au cristal quand il illumine le monde. Alors, la fixation de la terre, c'est grâce à leur richesse et à leur force d'abondance que j'ai fixé la terre large, que moi, Ahura Mazda, j'ai fait grande et spacieuse, matrice de tant de beauté, pour qu'elle porte tout ce qui est à l'état osseux, ce qui est vivant comme ce qui est mort, et les hautes montagnes où les coulées d'eau forment de nombreux pâturages. C'est grâce à leur richesse et à leur abondance, aux Zarathoustra, que j'ai fixé les embryons bien enveloppés dans les matrices, afin qu'ils ne meurent pas, et que j'ai tenu assemblés dans l'enveloppe de peau, jusqu'au jour prévu de leur dissolution, les os, les poils, les muscles, les viscères, les nerfs et les glandes. Voilà donc les trois éléments, pas de la cosmogonie, qui sont mentionnés ici. Alors, les suppositions d'Iriel du passé, si les fortes fravachis des partisans d'Acha ne m'avaient pas offert leur assistance, le meilleur de l'état osseux, c'est-à-dire le bétail avec ses gardiens, ne m'aurait pas appartenu, car la force aurait appartenu à la tromperie, le pouvoir aurait appartenu à la tromperie, tout l'état osseux aurait appartenu à la tromperie. L'avis trompeur, le manu trompeur, se serait installé entre le ciel et la terre. Le manu trompeur aurait obtenu la victoire entre le ciel et la terre, si bien qu'à présent, le vainqueur, si bien qu'à présent, l'avis méchant, vainqueur, ne serait pas soumis à l'avis bienfaisant, vaincu. Alors, on passe au présent, mais à présent, grâce à leur richesse et à leur fécondité, les eaux coulent en propulsant leurs flots à partir de sources inépuisables. Si les plantes germent de terre depuis des sources inépuisables, les vents soufflent en courant avec les nuages depuis des sources inépuisables. Les femelles portent des embryons, elles donnent le jour en des couches faciles et elles se trouvent enfin entourées de fils. Voilà donc la cosmogonie qui nous est racontée ici. N'est-ce pas, dans le premier chapitre, est fait de cette manière. Le second chapitre présente une cosmogonie beaucoup plus réduite. Il n'y a pas deux volets. Donc, l'acte cosmogonique est attribué aux Fravachis elles-mêmes. Et ici, nous retrouvons la filière usuelle, la plus courante, dans la succession des actes créateurs. D'abord, il s'agit donc de tenir étendu le ciel, bien sûr, puis l'eau. Je vais y venir, la place de l'eau est étrange. La terre, donc l'eau passe avant la terre, puis la vache, ce qui est usuel, et puis les embryons. Ce sera la même succession dans le troisième chapitre. Alors, pourquoi l'eau précède-t-elle la terre dans l'ordre des créations ? Je pense que cela s'explique à la lumière d'une très lourde interpolation qui est faite dans le premier chapitre où, étant donné que le passage est interpolé, je n'ai pas, pour la simplicité du propos, reporté ici, mais entre le ciel et la terre, une autre création a eu lieu, c'est celle de la déesse rivière Anahita, qui bénéficie elle aussi d'un très long yacht. C'est une rivière, son nom a été très discuté récemment, car Goto, un linguiste, un indianiste japonais, a vu très justement que ce nom ne signifiait pas sans tache, sans faute, immaculé, comme on le prétendait jusqu'alors, mais qu'il s'agissait d'une rivière, on peut comprendre comment pourra, je n'ai pas de bonne explication, mais c'est une rivière qui n'est pas attachée, sans lien, non attachée. Mais on ne sort pas de l'interprétation, n'est-ce pas, lorsque l'on a vu, on peut donner des explications, mais non, évidemment rien de décisif. Alors, l'idée que cette rivière est créée entre le ciel et la terre, après le ciel mais avant la terre, cela tient à sa nature, de lien justement, c'est elle qui fait le lien, c'est, Ça n'a rien à voir sans doute avec l'absence de lien qui caractérise son nom, mais elle fait le lien entre la terre et le ciel, car elle a cette propriété, hein, de, comme le dit le texte d'ailleurs, le texte du Yasht. Elle va, nous dit le texte, depuis la montagne du sanglier, la montagne du sanglier, qui est le point culminant de la terre, jusque la mer au vaste bord. Or, la mer au vaste bord est une mer céleste, c'est le réservoir céleste des eaux. Il s'agit donc d'une rivière verticale. Elle monte dans le ciel, c'est sa particularité. C'est elle qui, depuis la terre, par une chimie qui ne nous est pas décrite, n'est-ce pas, amène depuis le pic du sanglier, le plus haut sommet terrestre, les flots qui vont nourrir le réservoir céleste des eaux, et puis qui en reviendront sur la terre dans le mécanisme de la pluie. On ne peut pas. C'est une image, je vais dire, incommode, n'est-ce pas? On se fait mal une idée de ce que cela peut représenter. D'autant qu'une autre discussion a lieu. Je ne suis pas compétent parce qu'elle met en jeu des connaissances astronomiques qui me font défaut. Mais Michael Witzel, que vous connaissez peut-être parce que c'est un des invités de mon collègue Fussman les plus fréquents, qui est l'un des indianistes les plus actifs d'aujourd'hui, pense que cette déesse, c'est pas cette image d'une rivière qui monte dans le ciel vers le réservoir céleste des eaux, serait une représentation de la Voie lactée. Ceux d'entre nous qui ont les connaissances astronomiques les plus précise ne le pense pas. Et il est vrai que, par ailleurs, n'est-ce pas, cela fait défaut dans toutes les sources. Aucun texte d'aucune époque, aucun texte iranien d'aucune époque ne fait mention de la Voie lactée en l'associant à la rivière Anahita. Mais en tout cas, cette situation particulière d'une rivière qui fait le lien entre le ciel, entre le ciel et la terre, n'est-ce pas, explique sans doute que l'eau n'est pas tenue son rang et que finalement la création de l'eau est évoquée entre celle du ciel et celle de la terre. Et je crois qu'un signe très clair pour cela, c'est que l'eau, ap, lorsque c'est elle qui est créée, il y a l'accusatif singulier, apem. Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal car l'élément eau, les eaux en général, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas, celle de la pluie, celle des rivières, celle de la mer, peu importe, les eaux, c'est un pluriel tantum, comme on dit. C'est un mot qui est toujours employé au pluriel. Hein? Apas, les eaux dans les Rig Veda, aussi dans beaucoup de textes avestiques. Mais lorsque ce mot est employé au singulier dans un texte avestique, cela peut se référer à la rivière. On dit une rivière, c'est ap au singulier. Et dès lors, dans les autres versions, la version du chapitre 2, la version du chapitre 3, où nous trouvons le mot ap inséré entre le ciel et la terre et au singulier, il faut peut-être comprendre là aussi qu'il s'agit d'Anahita. La rivière, c'est-à-dire Anahita. C'est le nom d'Anahita. Hein? Anahita est une épithète. Ça signifie qu'elle est sans lien. Mais son nom, le nom auquel se rapportent ces épithètes et qui n'est presque jamais mentionné, sauf quelquefois, c'est Ap, la rivière. Alors, peut-être faut-il comprendre qu'il ne s'agit pas de l'élément eau, mais qu'il s'agit de la déesse rivière dans les listes dépouillées des deux autres chapitres. C'est une simple hypothèse, hein, mais je pense que la logique de la situation de l'eau et la logique de la grammaire, avec le singulier, peuvent répondre à cela. Alors, nous allons en venir à la version, que je crois la plus théologiquement élaborée, du chapitre 3. Alors, que nous dit le chapitre 3? C'est la strophe, c'est la strophe 28. Il y a un mot méconnaissable dedans qui semble être un verbe, et un verbe dont on ne voit pas comment l'insérer dans la syntaxe générale. On le voit même tellement peu qu'on peut en faire abstraction. Je vais vous donner une traduction, sans me référer à ce mot, et vous verrez que la phrase paraît complète, ce qui est quand même assez singulier. Mais je ne puis rien faire d'autre, parce que Il n'y a pas de solution apparente à ce problème. Eh bien, il est question donc des Fravashi, elles apparaissent sous la forme pronominale. Mazda les a appelées à l'aide. Mazda les a appelées à l'aide. De ce ciel, de cette eau ou de cette rivière, de la terre et des plantes. Quand Spenta Mainyu, donc l'esprit bienfaisant, a fixé le ciel, fixé l'eau, la rivière, la terre, la vache, les plantes, les embryons dans les matrices, etc., etc. Donc, l'action est attribuée à Spenta Mainyu. Qui est Spenta Mainyu? Je crois qu'il y a quelque chose certainement de vraisemblable dans l'opinion la plus courante et la plus traditionnelle, mais extrêmement vague, n'est-ce pas, que l'on donne de la fonction de cette entité. Donc son nom, Mainyu, c'est une allégorie de la pensée, c'est une allégorie active, ce n'est pas une abstraction ni une action, c'est plutôt un facteur de pensée qu'autre chose. Bon, on traduit par esprit, c'est évidemment une facilité, ce n'est rien de plus. Alors, le problème du Mainyu, c'est l'Avesta ancien, ce sont les gathas. Dans le Yasna Dankaiti, le problème de Mainyu n'a pas la même acuité. Dans les gathas, il est grave. Je laisserai le problème de côté pour l'instant. En tout cas, dans l'Avesta récent, il semble que cette divinité, ce n'est pas un Amushaspenta, ce n'est pas l'un de ce corps de divinité qui se comporte comme s'il était particulièrement proche d'Ahura Mazda par le rang énumératif et aussi par leur proximité fonctionnelle. Au contraire, on a l'impression que le Mainyu est assimilé d'une manière ou d'une autre à la personnalité même d'Ahura Mazda. Là, je vais vous dire que là, c'est ma zone d'ombre personnelle, vous savez. Je ne sais pas quel type d'assimilation exacte on peut postuler. Mais l'explication traditionnelle qu'on en donne, et ici elle fait parfaitement l'affaire, comme vous le verrez, je ne dis pas que ça fait l'affaire partout, il y a des passages beaucoup plus désagréables, mais ici l'impression qu'on retire, c'est que le Mainyu, le bon du moins, le bienfaisant, celui dont il est question ici, c'est en quelque sorte l'aspect créateur d'Ahura Mazda. C'est une sorte de métonymie secondaire. Mazda, comme divinité, lui aussi une abstraction métonymique. C'est l'allégorie de la vigilance, n'est-ce pas, de la grande vigilance universelle. C'est le Dieu qui voit tout, qui contrôle tout, hein, qui fait attention à tout. Alors, le Mainyu est une métonymie télescopique, en quelque sorte. Ce serait l'élan créateur du Dieu, c'est pas la pensée créatrice du Dieu. En tout cas, c'est elle directement qui intervient ici, dans la cosmogonie telle qu'elle nous est racontée. Alors, il y a tout de même quelque chose de plus. Il y a tout de même d'autres petits facteurs. Ce chapitre, le troisième, qui est le premier, vraiment le premier chapitre purement yasht, formule en Yasamaïdé, comporte en tout 4 strophes. Ce sont les strophes 26 à 29. Mais elle nous apporte tout de même, ces 4 strophes si brèves, des indications essentielles. La liste des créations, jusqu'aux embryons, est élargie aux Fravashi elles-mêmes. Donc, Spenta Mainyu fixe non seulement le ciel, l'eau ou rivière, la terre, les plantes, les embryons, mais aussi les Fravashi elles-mêmes. Il leur donne une place quelque part dans le cosmos. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, qu'il les crée. Il n'est pas question de création ici, hein. C'est une mise en place. C'est une sorte de mise en place architecturale, hein, par tenir étendu. Et une fois ainsi tenu étendu, si je puis dire, les Fravashi elles-mêmes collaborent à cette opération par un autre verbe mais apparenté, c'est-à-dire non plus vidar, mais upadar. Et upadar signifie aussi soutenir, mais c'est soutenir par en dessous. ce n'est pas tenir étendu, c'est soutenir par en dessous, comme une colonne. Et nous allons y venir, justement. Voilà l'acte complémentaire des Favashi. Une fois elles-mêmes fixées dans le cosmos, elles aident à son soutien. Elles aident à son soutien. Alors, première strophe, la première, la 26e, et la dernière, la 29e, comporte d'autres indications extrêmement précieuses. Nous sommes arrivés à la 29e strophe de l'hymne. La première partie en comporte 81. Il n'y a pas la moindre notation guerrière. Il n'y a pas encore eu la moindre notation guerrière. C'est le signe, hein, le signe que je pense évident que la fonction guerrière des Favashi est surestimée. Les seuls traits guerriers que nous pouvons relever, c'est dans les strophes 17 et 27, où on fait mention d'éventuellement de combats, mais avec une diversité lexicale tellement grande que nous ne savons pas à quoi ressemblent ces combats, de quel type de combat il s'agit. Hein, depuis éventuellement, n'est-ce pas, un combat simulé, par exemple, un concours, une course de cheval, n'est-ce pas, ou bien, au contraire, une véritable bataille rangée. Nous ne pouvons pas juger de l'importance de ces manifestations guerrières. Mais il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots pour le dire. Nous en rencontrons trois ici. Le premier est Vankutoi. Mot rare. Il semble qu'il faille les invoquer, dit le texte, en cas de Vankutoi. En cas de Vankutoi. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de ne pas reconnaître dans ce Vankutoi, c'est parfait du point de vue phonétique, le mot védique Vasudva, signifie à coup sûr l'expédition en vue d'acquérir du butin. L'expédition en vue d'acquérir du butin. Si on n'a pas, on préfère laisser le mot inexpliqué que de lui rapporter ce parfait équivalent védique, phonétiquement impeccable, n'est-ce pas ? C'est en vertu de cette vision moralisatrice permanente qui interdit d'attribuer à des Mazdéens quelque chose comme une razzia ou un acte de piraterie. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, autre chose, il y a d'autres noms. Quelque chose qui est un dérivé de Vertrakna, le brite l'obstacle, semble être des tentatives pour briser l'obstacle, Vertraknia. Mais le briser l'obstacle, ça peut être un acte liturgique. Hein. Moi, ici, le rapport au combat n'est absolument pas sûr. Alors, le nom le plus usuel du combat, c'est Peshana, un nom féminin en allon. Peshana, c'est l'équivalent exact du védique Purtana. Purtana, le combat. Ça, c'est un nom usuel dont nous ne pouvons pas douter. Voilà à quoi se résume cet ensemble de mots. C'est à cet ensemble de mots que se résume l'activité des guerrières des Favashi, telle qu'elle apparaît dans les trois récits cosmogoniques. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, voyons cette première et cette dernière strophe du troisième chapitre. Une description est faite des Favashi, qui est très importante. La manière de procéder, c'est donc d'élargir le Fravashayo, objet de Yasamaïdé, de brèves propositions relatives, nominales, qui contiennent chacune un superlatif, elles sont le plus cela, et d'entre eux, hein, génitif, plus parmi. Alors, la première qualité superlative, elles sont les plus fortes de ceux qui traînent un véhicule. Verbe vase à l'actif, c'est l'action des bêtes de trait, c'est l'action du cheval ou du bœuf qui tire une charrette ou un char. Hein. Donc, elles sont assimilées à des bêtes de trait. Et leur force, et c'est elles qui sont les plus fortes dans cette catégorie d'êtres. Elles sont les plus légères, les plus volatiles, n'est-ce pas, les plus sautillantes de ceux qui volent. Ici, la métaphore est celle de l'oiseau. Et nous avons ici quelque chose, probablement que l'image que l'on donne des fravachis dans un passage comme celui-ci, certainement que la fravachie prise globalement, c'est bien sûr un être humain féminin, puisque le mot est féminin, pourvu d'un cheval, aussi éventuellement d'un char, et l'ensemble est volant. L'ensemble est volant. Vous voyez qu'on n'est pas loin des chasses célestes qu'évoquait Dumézil. Mais ceci aussi peut être de l'ordre de la métaphore. Alors, troisième qualité superlative que nous ne parvenons pas à expliquer, le IH de 13, si nous ne parvenons pas à l'expliquer, c'est que c'est véritablement un recueil de ce qu'on appelle des apax legomena, c'est-à-dire de mots qui ne sont mentionnés qu'une fois. Dès lors, souvent, si nous ne parvenons pas à lire le mot comme nous avons fini par lire Fravachi, nous sommes dépourvus de toute possibilité d'explication. Alors, ce troisième qualité superlative, je préfère la laisser. Alors, autre chose, autre assimilation, la quatrième. Elles sont Adamvatwashtema. C'est coupé pour jeter au sol. An ava twarch. Il est impossible de les abattre. Et elles sont les plus impossibles à abattre des fra chimbana, c'est-à-dire des colonnes. Voilà l'image de la colonne, n'est-ce pas, qui apparaît de manière explicite. Ici, l'image, ce n'est plus d'appareil guerrier qui se meut dans le ciel. C'est l'image de la colonne. Ce sont, si vous voulez, les fravachis cariatides. Fravachis cariatides. Oui, mais si nous, maintenant, essayons d'assembler ces deux images extrêmement différentes, n'est-ce pas, celle d'un appareil guerrier mobile dans le ciel et celle de cariatides. Cet assemblage-là est à l'évidence marqué par un contraste. C'est le mobile et l'immobile. Le mobile et l'immobile. Le char des fravachis parcourt le ciel avec légèreté, il est volatile, comme dit le texte, mais en tant que soutien du ciel, elles sont immobiles. Elles sont immobiles. C'est l'opposition immobile-mobile qui domine dans ces descriptions et qui caractérise aussi l'ultime strophe du chapitre, la strophe 29. Donc, Spentamainu les fixe quelque part, elles sont assises en silence. Immobilité, assises en silence. Elles ont de beaux yeux. Elles ont des yeux vigoureux ou qui rendent vigoureux en fonction de l'alternative que j'ai expliquée tantôt à propos de Soura. Elles écoutent. Elles restent à voir et à regarder. Elles sont pour longtemps calmes, toujours l'immobilité. Et puis, le contraste avec la mobilité reparée. Elles sont hautes, en allusion à la colonne, à nouveau, mais elles sont aussi ceinturées haut. L'idée de faire remonter sa ceinture pour, en quelque sorte, faire remonter aussi le vêtement, n'est-ce pas, c'est l'image de quelqu'un qui se prépare à partir dans un but quelconque. L'image que l'on a, n'est-ce pas, si l'on tient vraiment à relever quelque chose qui ressemble tout de même à une robe, c'est plutôt l'image de quelqu'un qui veut courir. C'est pas nécessairement ça. L'acte qui consiste à remonter un vêtement et peut aussi avoir pour but, comme l'a montré Hoffmann à propos des textes de l'Utsanga védique, ça consiste peut-être aussi à faire remonter au-delà de la ceinture et à fixer quelque chose qui va faire office de poche, n'est-ce pas ? Et c'est dans cette cavité du vêtement ainsi créée par la ceinture que l'on va peut-être, que l'on va éventuellement stocker sur soi pour le déplacement ce que l'on trouve d'intéressant en route, n'est-ce pas ? Fruits, plantes, champignons, si vous voulez. C'est l'utsanga, sert de récipient, n'est-ce pas ? C'est la version indo-iranienne dans nos textes de ce qui est chez nous, les poches. Les poches. Créer une poche. Bon, donc il y a tout de même une idée de quelqu'un qui prend le départ pour une activité bien bien déterminé. Et alors, l'image, à nouveau, le même contraste réapparaît dans les dernières notations. Elles sont Ravo Frautmano. C'est Ravo Frautmann. Excusez-moi, si. Mot qui a été élucidé par le maître de Malandra, Dresden, peu de temps avant la soutenance de sa thèse. Le verbe de base, c'est un verbe onomatopéique, probablement, prout, qui désigne non pas le hennissement des chevaux, mais je crois qu'en français, ça s'appelle ronfler. C'est ce bruit que les chevaux font avec les naseaux lorsque quelque chose les perturbe ou lorsqu'ils souhaitent entrer en mouvement alors qu'on les retient. N'est-ce pas ? Je crois que c'est ronfler. Typologie et moi, ce sont deux choses distinctes. Alors, je pense que c'est ce bruit. Donc, il ronfle dans l'espace libre. Elle ronfle dans l'espace libre. Donc, elles se comportent comme des chevaux qui aspirent à prendre leur course. Et pourtant, elles sont là, avec des emplacements fixes à soutenir le ciel. Oui. Voilà donc le récit final du même acte cosmogonique. Il est assumé par, je vais dire, l'organe créateur d'Ahura Mazda, c'est-à-dire le Manu bienfaisant. Dans le monde qui se met en place, les Fravashis ont pleinement leur place. Elles sont un élément du décor qui se met en scène. Et leur attitude dans ce scénario, c'est d'être potentiellement capable de mouvements rapides, légers, violents, mais d'y renoncer provisoirement. Elles sont provisoirement affectées à une mission où l'immobilité est nécessaire. Ben, car, alors, quelle image résulte de tout ceci dans la cosmogonie ? Bien, c'est la mise en place d'un monde immobile. L'on tient étendu. On fixe, n'est-ce pas, le ciel, la rivière Anahita, la terre. Aussi, les petits à devenir, puisque nous ne sommes pas dans un milieu essentiellement humain, les petits des animaux, les enfants des hommes, le mécanisme est en place. Mais rien ne fonctionne en réalité. Tout est immobile. Pas. Nous avons cette impression d'un décor de théâtre lorsque le rideau se lève. Hein. C'est cela, c'est le lever de rideau sur la cosmogonie, n'est-ce pas, que tout est en place, mais immobile, avant que les acteurs ne se mettent à jouer. Or, cela porte un nom, cela existe dans la cosmogonie mazdéenne, n'est-ce pas. C'est le deuxième stade de la création, n'est-ce pas. C'est la mise en place d'un univers matériel, car la voûte céleste, la terre, la rivière, les rivières, l'eau, les plantes, la vache, les hommes, tout cela est matériel, mais pour l'instant immobile. Et les Fravashis elles-mêmes renoncent à leur potentialité mobile pour se mettre au service de ce monde immobile. Alors, c'est pas le premier acte de la cosmogonie. Il y a d'abord eu la création du monde immatériel, du monde spirituel. Nous en avons parlé l'an dernier. Il n'en est pas question ici. Il n'en est pas question dans le récit du IH-13. Mais les 30 premières strophes nous racontent, n'est-ce pas, cette deuxième phase de la cosmogonie, celle de l'organisation du monde matériel immobile. Alors, nous en viendrons aux deux autres, dans le cours, les deux autres passages cosmogoniques qui émaillent le Yasht, qui vont réapparaître, n'est-ce pas, le motif cosmogonique va réapparaître au centre de cette première partie de l'hymne, puis à la fin de cet hymne. C'est donc le tissu narratif, c'est l'histoire de la cosmogonie dans le IH de 13. Et c'est en fonction de cette cosmogonie, bien sûr, que nous devrons interpréter la figure et la fonction des Fravashis pour tenter d'élucider leur place dans la combinaison des âmes et aussi leur fonction dans la mythologie des Yasht. Je vous remercie de votre attention et la semaine prochaine, merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.